RCF.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr RCF pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe en Limousin. Lors de la dernière chronique, on accueillait le président de l'ACJNA pour parler des jumelages, vecteur de partenariat entre villes européennes en partie. Mais ils ne sont pas les seuls à permettre ce genre de collaboration et de projets naissants. Un autre projet de coopérer entre deux espaces existe, c'est le cas de la coopération entre deux espaces frontaliers. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Camille Galtier, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe, qui a effectué un master études européennes spécialisées dans la coopération transfrontalière et interterritoriale. Bonjour Camille, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Pour commencer, pourriez-vous nous décrire en quelques mots ce qu'est la coopération transfrontalière ?
Alors, nous pouvons dire que la coopération transfrontalière représente toute action visant à développer les rapports de voisinage entre les collectivités territoriales situées de part et d'autre de la frontière. Il faut savoir que les régions frontalières intérieures de l'Union européenne couvrent 40% du territoire de l'Union, représentant 30% de la population européenne, soit environ 150 millions de personnes.
Et pour nous permettre de comprendre un peu mieux ce fonctionnement et les enjeux de ces territoires et de cette coopération, il serait intéressant de nous expliquer d'où ça vient, d'où vient-il ?
Alors, historiquement, de nombreux territoires proches des frontières intérieures de l'Union européenne ont connu une certaine proximité, que ce soit par des liens forts ou des guerres, comme ça a été le cas entre la France et l'Allemagne, par exemple. Les territoires à proximité des frontières détiennent certaines spécificités. Leur développement était parfois peu adapté aux politiques nationales et ils se retrouvaient souvent en marge des politiques de l'État central. Ils ont été un véritable laboratoire de la construction européenne pour ces raisons-là. En effet, c'est d'abord le Conseil de l'Europe en 1980 avec la Convention cadre de Madrid qui a mis en place le premier acte fondateur du cadre juridique de la coopération transfrontalière des collectivités territoriales en Europe. Cette convention est venue définir et encadrer la coopération transfrontalière en 12 articles. L'approche du Conseil de l'Europe était une approche politique et s'ajouteront à cette convention 3 protocoles additionnels. Des traités et accords bilatéraux ont aussi pu favoriser le développement de la coopération transfrontalière entre plusieurs territoires. Et parmi eux, nous pouvons évoquer par exemple le traité de Bayonne de 1995 entre la France et l'Espagne, ou encore le traité du Quirinal qui lui est plus récent et concerne la France et l'Italie. Alors, l'Union européenne, de son côté, ne va s'emparer de la question que bien plus tard, avec une approche plus intégrée. Elle va mettre en place ce qu'on appelle une politique de cohésion dans le but d'apporter des fonds et des financements aux régions de l'Union européenne plus en difficulté. Et ces régions frontalières faisaient partie des régions en difficulté en raison de la mise en place du marché intérieur et de l'ouverture des frontières intérieures de l'Union, ce qui a entraîné une fragilisation socio-économique de ces zones frontalières. Au départ, on peut noter qu'il existait une disparité entre le soutien opérationnel et financier apporté par l'Union européenne et la pauvreté du cadre juridique. Et en 2006, l'Union européenne a créé un nouvel outil, qui sont les groupements européens de collectivités territoriales, et qui ont pour but de faciliter et de promouvoir la coopération dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale. Les GECT permettent l'obtention de la personnalité juridique, d'une autonomie budgétaire et viennent lever un certain nombre d'obstacles juridiques et administratifs entre des collectivités territoriales de part et d'autre d'une frontière qui souhaiteraient coopérer. Alors, les collectivités territoriales, grâce à ces GECT, vont pouvoir mener des projets de coopération cofinancés par des fonds structurels.
Et depuis quelques années, on peut observer une plus étroite coopération. Comment cela est-il représenté sur le terrain aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous donner certains exemples ?
Oui, bien sûr. Alors, la coopération transfrontalière et les différents outils qui ont été mis en place pour favoriser son développement ont donné lieu à des services publics transfrontaliers, des SPT. Et la mise en place de ces services publics transfrontaliers nous permet de parler de territoires transfrontaliers et non plus seulement d'espaces transfrontaliers, puisque dès lors qu'il y a des SPT, les espaces transfrontaliers qui se caractérisaient par des échanges structurés et des traits communs sont plus intégrés et donnent naissance à de véritables territoires transfrontaliers. Et parmi ces services publics transfrontaliers, nous pouvons par exemple évoquer la ligne de tramway entre Strasbourg et Kehl, inaugurée en 2017, ou encore le premier hôpital transfrontalier d'Europe qui est situé à Puigcerdà en Espagne, à 2 km de la frontière française. Dans cette zone de montagne éloignée des hôpitaux français et espagnols, la création et le fonctionnement de cet hôpital permet aux habitants du territoire transfrontalier en question d'avoir accès à certains soins qui étaient impossibles avant puisque les hôpitaux des villes françaises et espagnoles étaient à environ 2 heures de route. L'hôpital est totalement transfrontalier, le personnel qui y travaille vient de part et d'autre de la frontière et le système de remboursement est prévu pour que les Français comme les Espagnols soient remboursés sans démarche administrative à effectuer en plus.
Donc par rapport à la carte européenne d'assurance maladie, c'est quelque chose en plus?
C'est deux choses différentes. Là, par exemple, dans cet hôpital, en tant que Français, vous venez dans l'hôpital avec votre carte vitale et les Espagnols viennent avec leur carte sanitaire.
Donc il existe aussi d'autres exemples?
Oui, après, il y a d'autres exemples de services publics transfrontaliers, mais je ne sais pas si on a forcément le temps aujourd'hui de tous les développer.
Okay. Il y a aussi des changements qui peuvent être dus aux différentes crises, notamment à la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des frontières des États membres. Et quel en a été l'impact sur ces territoires et les territoires en général ?
Oui, la crise sanitaire, mais c'est surtout la fermeture des frontières intérieures de l'Union européenne qui ont donné lieu à une véritable prise de conscience de la réalité de la coopération transfrontalière. Elle existe bel et bien, cette coopération, et finalement on ne peut plus revenir en arrière et fermer les frontières intérieures de l'Union européenne sans porter atteinte aux territoires transfrontaliers et surtout aux habitants de ces territoires. Car le passage de la frontière fait vraiment partie de leur quotidien, que ce soit pour leur travail, pour leurs loisirs, pour leurs achats et puis aussi pour leur vie personnelle. Ils sont quotidiennement amenés à franchir cette frontière, souvent même sans s'en rendre compte. Donc c'est véritablement ancré dans leur quotidien. Et la crise sanitaire a montré que pour ces territoires transfrontaliers, le repli sur soi et la fermeture des frontières intérieures de l'Union européenne n'étaient pas envisageables. Et d'ailleurs, lors du second confinement, est apparu un nouveau statut, celui d'habitants transfrontaliers, puisque les habitants transfrontaliers ont pu franchir la frontière dans une limite de 30 km en présentant seulement un justificatif de domicile. Et ça, c'est la première fois que ça a eu lieu. Ça n'existait pas avant. Et puis, on peut observer aussi que dans, par exemple, les propositions de réforme de l'espace Schengen, à chaque fois, il y avait une véritable, dans toutes les propositions, volonté de préserver et de poursuivre le développement de ces coopérations transfrontalières, de ne pas leur porter atteinte et d'éviter au maximum le contrôle, mais surtout la fermeture des frontières intérieures de l'Union européenne. Enfin, j'ajouterai que depuis quelque temps, on entend parler du mécanisme ECBM qui permettrait d'éliminer certaines barrières de la coopération transfrontalière et notamment en termes d'asymétrie juridictionnelle. Donc à voir comment ça va évoluer et comment ça va se mettre en place. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site de la mission opérationnelle transfrontalière, la MOT. C'est un site assez complet avec différentes actualités justement sur la coopération transfrontalière.
Juste avant de finir, vous avez parlé du mécanisme ECBM qui pourrait entraîner, en plus d'éliminer les barrières.
Là, ce serait plus éviter une asymétrie juridictionnelle, du coup, tous les inconvénients qu'il peut y avoir entre différents États du côté administratif. Par exemple, si on prend l'exemple de la France et de l'Espagne, si on regarde les communautés autonomes et les régions françaises, elles n'ont pas le même statut, elles n'ont pas les mêmes compétences. Donc le CBM permettrait de réguler un petit peu tout ça et de lever certaines barrières administratives.
C'est maintenant un peu plus clair pour nous. J'espère que pour nos auditeurs aussi et que vous en avez plus appris sur cette coopération transfrontalière qui ne cesse d'évoluer au fil du temps. On a pu voir aussi notamment grâce à travers les crises et grâce à différentes mesures qui peuvent être prises au niveau juridique et qui permettent à ces espaces de pouvoir s'adapter aux événements historiques de notre société. Et donc je vous remercie Camille de nous avoir un peu éclairé sur ce sujet assez complet et complexe. Et je remercie aussi les auditeurs de RCF de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.